Salut la gang, bienvenue à ce 18e épisode de Femmes de fer. C'est le temps de partir en voyage et de laisser nos peurs de côté pour l'année 2020. Je reçois Sophie Rees, qui est l'auteure du livre Le guide des parents voyageurs. Elle a également un site web rempli de mille et une informations sur les voyages en famille avec bébé jet lag. Bref, on sort de notre zone de confort et on rêve ensemble, on part en voyage. On l'écoute dès maintenant. Bienvenue à Femmes de fer, le podcast qui vous aide à atteindre vos rêves les plus fous. Je suis votre animatrice Sophie Monmini, rédactrice, productrice et momtrepreneur qui veut toujours tout connaître sur tout. Je vous invite à vous joindre à moi chaque semaine où je m'entretiens avec des femmes inspirantes. Chaque jour, elles atteignent leur plein potentiel et elles vous donnent leurs secrets pour vous aider à réaliser vos objectifs. Vous êtes prêtes? Let's go! Allô, Sophie!
Allô, Sophie!
C'est très drôle de se dire Sophie, Sophie. À chaque fois que ça m'arrive, je trouve ça drôle de répondre et de parler à une Sophie.
J'adore ça, mais on est tellement des bonnes personnes, les Sophie.
Ah, ben c'est ça. Écoute, c'est pas moi qui le dis, c'est une autre Sophie qui le dit. Sophie, merci tellement de venir me jaser ça sur le podcast. Quand je ne te connaissais pas, pour être très franche avec toi, je ne te connaissais pas avant quelques semaines. Dans le fond, j'ai découvert ton profil. Quand j'ai commencé à découvrir ton profil et à aller faire une petite recherche, je me suis dit, premièrement, comment ça se fait que je te connaissais pas? Et deuxièmement, tu étais impliquée dans beaucoup, beaucoup de projets et ça m'impressionne énormément. Donc, je suis très, très contente qu'on se jase ça aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, Sophie, et peut-être juste expliquer un peu, c'est quoi ton projet en ce moment sur lequel tu travailles?
Ben, en fait, j'ai plusieurs passions. Mon parcours est quand même assez atypique, mais la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est le guide des parents voyageurs, s'inspirer, s'informer, s'équiper. 0-12 ans, c'est un ouvrage que j'ai écrit et sa mission à ce beau livre-là, qui est l'outil le plus complet dans le fond, dans la francophonie, c'est vraiment d'outiller les parents à poursuivre leur rêve de voyage. Puis moi, ben, ça part vraiment d'une passion aussi personnelle et j'ai eu envie justement de partager ça avec tous ceux qui en ont besoin et qui veulent bien l'entendre.
Oui, parce que sincèrement, pourquoi ça a vraiment piqué ma curiosité, ce livre-là? Moi, je suis nouvellement maman. Bon, à 18 mois, mon petit gars, à 18 mois, je ne sais pas si je peux encore dire que je suis nouvellement maman, mais bref, il est petit et pour moi, les voyages, ça a toujours fait partie de ma vie. C'est quelque chose qui est super important dans ma vie parce que c'est toujours un moment de ressourcement où je vais trouver une créativité, ça me fait du bien. Soit qu'on va relaxer puis on ne pense plus à rien, ou soit que je découvre beaucoup de choses. Donc, pour moi, le voyage, et même dans ma famille, ça a toujours été quelque chose de super important dans nos vies. Et une des raisons pour lesquelles je retardais souvent le fait d'avoir un enfant était peut-être que je serais plus capable de voyager. Et c'est aussi une peur en ce moment pour moi de voyager avec mon enfant, alors que je sais très bien que plein de monde le font. Et je suis dans des groupes de mamans, des groupes de gens qui voyagent, puis des groupes de familles qui voyagent sur Facebook. Ouais. Puis je le vois que ça fonctionne très bien, mais c'est quand même, pour moi et pour beaucoup, beaucoup de monde autour de moi, c'est un stress énorme, disons-le, quand même, de travailler, de voyager avec des enfants. Puis tu sais, c'est pas nécessairement que du stress négatif, là, c'est juste beaucoup d'organisation ou beaucoup d'inconnus. Fait que c'est pour ça que je trouve ça vraiment important qu'on se parle, premièrement, pour que tu me dises, toi, t'as des enfants.
Ben exactement. En fait, moi, mon histoire, à la base, là, j'ai toujours voulu voyager dans la vie. C'était vraiment, je me souviens, le plus loin que je remonte, j'étais petite, j'avais 4-5 ans, puis j'avais déjà la conscience d'un ailleurs. Mes parents, c'est deux immigrants portugais aussi. Donc, est-ce que ça vient, si je me psychanalyse un peu, là, de cette espèce de relation avec le fait qu'on a une famille qui vit ailleurs, qui existe? Et je me souviens, j'avais une map monde quand j'étais petite, là, dans le sous-sol de chez mes parents, puis je passais des heures à passer mes doigts là, sur toutes les rivières, puis je mémorisais les capitales, de la capitale de la Zambie, puis c'était vraiment quelque chose pour moi qui était très important ou en fait très intriguant. Donc, très jeune, j'ai commencé à travailler pour voyager. Donc, c'est sûr que je vendais mes Barbies sur le bord de la route, là, à 8-9 ans, justement, pour essayer d'économiser tout ça. J'ai commencé à travailler à 15 ans. J'ai poursuivi mes études toujours en voyageant. Puis, compte tenu du fait que j'ai commencé à travailler justement très jeune aussi, en même temps que j'étudiais aussi, tu sais, puis j'allais à l'université à temps plein, ça me permettait quand même d'économiser gros et de voyager gros. Alors, j'ai toujours été une genre de voyageolique où chaque fois que j'avais une journée, deux journées, trois journées de congé, ben go, je m'en allais à l'extérieur.
Et quand quel genre de voyage, excuse-moi, mais quel genre de voyage tu faisais? Est-ce que c'était du pack-sac, je m'en vais sur le pouce ou plus dans des hôtels organisés?
Très rarement organisé. En fait, jamais vraiment organisé. Je dois avouer, la chose la plus organisée que j'ai faite, c'était une croisière en 2009. Sinon, c'est sûr, j'en ai fait des tout inclus. Puis c'est ça aussi que je prône dans le livre, c'est cette diversité-là de voyages. Mais au même titre, on a été en Inde, on a été en Afrique un mois, on s'est promené en Asie énormément. Je compte plus les fois que j'ai été en Asie en solo. Moi, ça fait 17 ans, presque 18 ans que je suis avec le papa de mes enfants. Donc, lui aussi avait cette passion du voyage. Donc, j'ai appris à voyager seule, en amie, après ça, à deux. Mais quand je suis tombée enceinte en 2012, c'était incroyable la vague de commentaires négatifs que j'ai eu. Ça a été là de « Oh my God, ta vie est finie ». Ça, j'ai entendu. Une chance que t'as été, mais vraiment, une chance que t'as été à tel endroit parce que tu pourras plus jamais retourner. Mais là, tu pourras plus voyager. Puis après ça, quand j'ai assumé le fait que j'allais continuer à voyager avec mes enfants, parce que moi, partout à travers le monde, j'en croisais des familles qui voyageaient. Oui. Particulièrement des familles européennes que c'était beaucoup plus ancré dans leur culture, dans leur façon de faire. Ou sinon, je voyais aussi qu'il y avait des enfants partout à travers le monde et qui vivaient et qui mangeaient. Et qui dormait.
Alors,
ça me donnait quand même une certaine confiance là-dessus. Mais de le faire, justement de l'assumer. Puis quand je l'ai assumé, après ça, c'est toutes les questions qui sont venues. Genre, tu vas mettre la vie de ton enfant en danger. Qu'est-ce que ton enfant va manger et tout ça. Basé là-dessus, j'ai commencé pour mes propres besoins à faire ce que j'appelle maintenant, en rigolant, mon doctorat en voyage et enfants. Et donc là, je me suis mis à éplucher tous les sites possibles, imaginables de voyages en famille, d'Europe. Ceux que j'ai trouvés qui étaient très riches, d'ailleurs, étaient en Nouvelle-Zélande et en Australie. Pourquoi? Parce que quand on veut prendre l'avion et qu'on habite dans ce coin-là, on a du chemin à faire. Donc, je pense que les parents là-bas se sont vraiment forcés. Et ben, il y avait en fait deux types de sites ou en fait de contenu. Il y avait soit les sites très formels, donc des sources d'information plutôt, des compagnies aériennes qui étaient très très rigides, souvent en français même mal traduits. On va se le dire, qui n'était pas nécessairement facile à comprendre pour des non-initiés. Moi, c'est sûr, j'avais tout ce bagage-là aussi qui me permettait d'en comprendre. J'avais travaillé aussi à l'aéroport de Montréal, c'est anecdote. Je travaillais pour KLM aussi, entre autres. Et j'avais aussi l'expérience terrain, tu sais, tout était mêlé. Ou sinon, j'avais des sites qui étaient très aspirationnels, qui aidaient vraiment beaucoup pour s'inspirer, pour donner confiance, mais moins pour s'outiller puis s'informer.
Ouais.
Je me dis, mais pourquoi ne pas en créer un. Et moi, j'ai toujours travaillé en direction de marque, en alliance stratégique, et j'étais au sein d'une grande entreprise, quand même en télécommunication, que j'étais là depuis 8 ans et demie, entre autres. Et je suis retournée après mon premier congé de maternité, parce que la vie, c'est fait qu'il faut travailler dans la vie aussi.
Oui.
Puis après, en 2015, à la naissance de mon fils, je me suis dit, il me semble que ça me porte, ce projet-là. J'ai vraiment envie de faire quelque chose d'autre. Alors, le 26 juillet 2016, j'ai lancé le site de référence pour parents voyageurs babyjetlag.com, qui est vraiment, en passant le nom, c'est drôle, c'est le surnom de mon fils quand on voyageait, puis même mes enfants, en fait, quand je promène, j'étais à Hanoï à 3 heures du matin, puis les gens me demandaient, mais qu'est-ce que vous faites là, madame? Je répondais, oh, it's a baby jetlag. Fait que c'est vraiment, je l'ai francisé. Et en parallèle, je me suis lancée aussi, puis j'ai cofondé La Ruche, qui est une plateforme de financement participatif de proximité, qui est un outil de développement économique, là, qui a pour mission de favoriser l'émergence de plein de projets à travers le Québec. Donc, ça a été un moment charnière dans ma vie en 2016 où j'avais comme envie de réaliser mes rêves, puis aussi aider les gens à réaliser leurs rêves. Soit leurs rêves entrepreneuriaux avec La Ruche, qui est comme une autre branche là, de ma vie, et les rêves, dans le fond, de voyage avec Baby Jetlag. Et tranquillement, le projet de livre est arrivé, où la maison d'édition m'approchait en 2018. Et je me dis, mais c'est vrai, pourquoi pas? pourquoi pas?
Oui, oui. Est-ce que tu es surprise que tu es partie quand même d'un endroit où tu étais dans une grosse business, une grosse entreprise, tu travaillais, ouais, j'imagine, des heures à n'en plus finir et
vraiment
travaillais très, très fort parce que on peut dire que tu es quand même impliquée dans le milieu depuis très longtemps.
Oui, oui.
Tu travailles fort dans le milieu depuis très longtemps. Est-ce que tu es surprise d'avoir lâché ça? Et pour travailler sur ces deux passions-là, je pourrais dire, en ce moment?
Oui, en fait, j'en suis super fière d'avoir osé faire le saut, sortir de ces menottes dorées de la sécurité corporative.
Ouais.
Je suis extrêmement contente. Je trouve que c'est pertinent parce que pour la ruche, ça, c'est vraiment un emploi. Là, je veux dire, c'est vraiment un emploi plus qu'à temps plein même.
Ouais.
Donc, mon expérience personnelle avec Baby Jetlag au niveau de l'entrepreneuriat m'aide énormément au quotidien dans mes actions, justement, de la ruche, où est-ce que là, je comprends c'est quoi se lancer un projet, le bâtir de toutes pièces, puis lancer une marque avec aussi les moyens d'une personne seule et complètement, oui, différents en entreprise, de lancer un projet, où est-ce que là, wow, on a une équipe
de 50
personnes ultra qualifiées avec des ressources pas infinies, là, mais une grosse machine quand même qui est là.
Oui.
Alors, c'est vraiment ça. Mais pour la petite histoire, en fait, entre les deux, moi, j'ai vraiment le déclencheur aussi, c'est que j'ai vu que je travaillais justement, comme tu l'as dit, énormément. Ben moi, mes rêves de voyage étaient quand même relativement courts. Oui, des fois, à Noël, on partait plus longtemps. Oui, des fois, on pouvait partir des 3 semaines. Mais comme j'avais justement cet emploi-là qui était très, très demandant, ben c'était souvent des petites périodes. Donc, j'ai vraiment profité de mes congés de maternité pour partir avec mes bébés à l'autre bout de la planète. Donc, on a été 2 mois en Asie avec ma plus grande qui a maintenant 7 ans. On est tourner après ça avec le plus jeune puis la plus grande qui avait 3 ans, toujours dans la même période quand il y avait entre 4 et 6 mois en Asie une deuxième fois. Mais après ça, on a vraiment fait une tonne de voyages en Europe, en Amérique du Sud, un peu partout. Les enfants maintenant, ils ont 7 et 4 ans puis ils ont pris plus de 100 vols. En fait, j'ai compté même plus. Donc,
wow,
c'est vraiment...
Donc, leur passeport est bien rempli, là.
Vraiment. En fait, ils me posent la question comme cadeau. Eux autres ne veulent pas de cadeau nécessairement matériel. Puis ça, là-dessus, j'avoue qu'on a les grands-parents qui gâtent assez. Mais leur plus beau cadeau, c'est quand est-ce qu'on repart?
Vraiment. Ils aiment ça, voyager?
Ils adorent voyager. Puis c'est vraiment rigolo parce que même à Noël, on s'est dit « Ah, cette année, on va essayer de prendre ça plus relax. Puis on n'ira pas. » Pour plein de raisons, on va juste se poser, puis on va aller faire du ski. Puis c'est eux qui nous ont demandé de quitter, puis on a dit, ben écoute, ils ne tordront pas le bras très longtemps.
C'est tout plate. On va être obligé de partir en voyage, c'est plate.
Exact, exact.
Donc, tu as voyagé avec des bébés, donc très jeunes avec eux. Est-ce que la première fois que tu l'as fait, là, sois honnête, est-ce que tu as eu peur? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a stressé, que tu t'es dit...
Ah, ben, vraiment extraordinaire. J'ai vraiment eu extrêmement peur parce qu'il y a eu la vague où les gens me disaient, ah, mais tu vas mettre la vie de ton enfant en danger. Puis après ça, l'ego embarque, hein. Puis là, l'ego embarque, puis tu as comme envie de leur dire, de leur prouver le contraire, tu sais.
Mm.
Et c'est là où est-ce que j'ai gagné beaucoup de confiance, en tentant de leur prouver le contraire. La première fois, on est parti avec la petite, une bonne recommandation que je donne souvent, de partir en formule, ne serait-ce que tout inclus, dans un environnement connu pour le premier voyage, surtout pour un premier enfant, où est-ce que nous-mêmes, on se familiarise avec la maternité, la paternité, la parentalité, ben d'y aller dans quelque chose de facile. Donc là, ça, je n'étais pas du tout stressée. On est parti à Cuba, en plus avec les grands-parents, bien relax. Mais quand est venu le moment de partir, les 2 mois en Asie, lorsque la petite, elle avait 4 mois, puis qu'on savait qu'on n'allait pas revenir avant qu'elle ait 6 mois, bien là, j'ai commencé à avoir un tout petit peu peur. Et j'ai eu la très, 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 très mauvaise idée d'aller au cinéma voir un film qui était basé sur l'histoire du tsunami en Thaïlande.
Oh non, je sais de quel film tu parles.
Ah, oui, 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 vraiment, vraiment. Et ça, ça a été vraiment une très, très mauvaise idée.
Oui.
Donc, ça a été notre première sortie de couple post-avoir un bébé. Je pense que la petite avait comme 3 mois. Et je vous dis, ne faites pas ça à la maison. C'est vraiment, on est sortis en pleurs du cinéma en se remettant vraiment tout en question. Je pense qu'on est même sortis avant la fin du film. Tu sais, je veux pas dire n'importe quoi, mais pas loin. Alors, allez voir le film, là, L'Impossible, là, The Impossible. C'est vraiment une très mauvaise idée, je vous le dis. Ne faites pas ça à la maison. Mais ça pour dire que c'est après ça, c'est super drôle, en fait, en termes d'anecdotes aussi. J'avais une amie, Alexandra, ben j'ai toujours une amie, Alexandra Diab, qui signe d'ailleurs la préface du livre, là, du guide des parents voyageurs, qui, on avait des amis en commun, puis elle a pris le temps de me parler pendant une heure, deux heures. En fait, je sais même pas combien de temps ça a pris. Puis elle, c'est une grande voyageuse aussi,
oui.
Avec expérience de maman, elle a pris le temps de me parler en tant que mère, en tant que voyageuse, pour me puis me donner plein de trucs, genre allaiter en porte-bébé, c'est elle qui m'a dit comment faire ça, t'sais, la technique. Là. Elle m'a dit, ben, apporte un foulard de soie, puis toutes sortes de petits détails que tu lis pas dans les livres.
Ouais.
Donc, Alex, pour moi, j'ai toujours été bien reconnaissante de ce temps-là, puis on s'en est reparlé beaucoup depuis, puis quand elle a accepté justement de signer la préface, je trouvais que c'était très pertinent parce que ça a été très significatif pour moi pour répondre à ta question.
C'est drôle que tu parles d'allaitement parce que moi, j'ai voyagé avec mon petit gars, il y avait 5 mois pour c'était un voyage d'affaires, puis moi, la chose qui me stressait le plus, c'était de prendre l'avion avec lui au niveau des oreilles et tout ça. Tu sais, je voulais pas qu'il ait mal, mais tu sais, pour moi, j'allaitais. Le truc que mes sœurs m'avaient donné, c'est quand tu décolles, allaites.
Ouais,
quand
absolument.
Tu atterris, t'allaites. Fait que ça fait que le petit bébé, il boit, donc ça débouche ses oreilles. Et juste ça, je crois que ça m'a sauvé tout un stress et aussi juste un inconfort durant le vol parce que mon enfant était juste incroyable pendant tout le vol. Il a bu, après ça, il dormait, il était bien, pas de problème. Et moi, juste en voyant ça, ça m'a tellement apaisé, mais c'est aussi le fait d'avoir des trucs venant de d'autres mamans. Et des fois, on a beau lire, on a beau regarder en général, OK, qu'est-ce qui se passe dans tel pays, puis quelle maladie, quelle affaire, quel produit faut avoir pour chasser les bébites ou je sais pas quoi,
exact.
Mais t'as beau avoir tous les trucs, mais en tant que maman, là, tu me conseilles quoi pour telle bouffe, telle affaire,
exact.
Quoi amener, où aller, parce que c'est des points qui sont totalement différents quand on a un enfant que quand on est juste seul ou quand on est avec notre chum puis qu'on se dit « Ah, ben ça, c'est pas bon, on va aller manger ailleurs. » Une autre organisation de ma famille, mais je pense que c'est peut-être pour ça aussi que les gens ont souvent peur de dire « On part en voyage » parce qu'il y a toute cette inconnue-là.
Puis c'est pour ça, en fait, Tommy, vraiment beaucoup le vois-tu, c'est vraiment de cette approche-là que j'ai initiée, autant dans le livre « Le guide des parents voyageurs » que le site bébéjetlag.com, pour moi, c'était extrêmement important la qualité de l'information parce que ça, là-dessus, autant que dans les groupes Facebook, je vois beaucoup, beaucoup circuler. Tu sais, j'ai créé aussi la communauté bébéjetlag, la référence des parents voyageurs, qui est un groupe de discussion où est-ce qu'il y a des milliers de personnes qui échangent là-dessus de manière régulière, qui s'entraident. C'est un groupe vraiment de qualité que je prends plaisir à animer puis à m'impliquer dedans aussi. Mais il y a quand même l'information, des mythes, la fausse information qui se répand. Fait que ça, là-dessus, j'aime beaucoup ce côté-là, rectifier les faits, puis peut-être aussi de mon background en communication qui est très rigoureux aussi, très, très structuré. Donc, ça, c'est beaucoup ce que j'amène, mais ma valeur ajoutée, c'est toute la rubrique astuces. Astuces, on la retrouve dans le livre, mais on la retrouve aussi sur le site. C'est vraiment, c'est de se dire, OK, bon, une fois que je t'ai expliqué comment ça fonctionne de manière vulgarisée, là, donc pas avec des termes là, très accessibles, là, je te donne mes astuces. C'est vraiment un peu ce que ta sœur, ta belle-sœur va te glisser dans l'oreille.
J'espère que vous aimez l'épisode d'aujourd'hui. Avant de continuer, je vous invite à consulter le site web de Femmes de Fer où je vous ai préparé un e-book gratuit dans lequel vous avez 5 astuces pour savoir comment bâtir votre liste de courriels. Alors, si vous voulez pousser le sujet encore plus loin pour vous aider à bâtir votre entreprise, allez sur sophiem.ca/femmes-de-fer-podcast. C'est important pour toi de voyager avec tes enfants parce que c'était un besoin pour toi, c'était plus fort que toi de voyager, mais c'était important pour toi de le faire avec tes enfants.
Oui, en fait, c'était plus qu'important. Pour moi, j'ai l'impression que j'aide à contribuer des meilleurs humains. Puis là, ça a l'air un peu prétentieux là, d'essayer de créer des meilleurs humains, un voyage à la fois, là, mais c'est pas vraiment nécessairement des meilleurs humains, c'est plus d'essayer de stimuler leur ouverture sur le monde. T'sais. Pour moi, il y a quelque chose qui est extrêmement important, puis je donne une conférence qui s'appelle « Développer ses capacités humaines, un voyage à la fois ». C'est une belle conférence aussi que je donne dans certains endroits. Puis ce qu'on en retient, là, il y a 2 choses. Premièrement, il y a 1000 façons de vivre sa parentalité à travers le monde, mais il y a aussi 1000 façons de faire les choses, si on pousse ça un petit peu plus loin. Puis aussi, notre vérité, c'est pas nécessairement la vérité. Tu sais. Puis tout d'essayer d'ouvrir et de déconstruire justement ces paradigmes-là, pour moi, c'est hyper important. Puis quand j'emmène mes enfants en voyage, je leur fais vivre justement ce que c'est autre chose aussi, tu sais. Ouais. Je le vois au quotidien, tu sais, il y a plein de choses, l'espèce d'aller vers l'autre, cette curiosité qui est hyper stimulée, puis je vois l'impact que ça donne au quotidien. Ma fille a commencé la garderie la maternelle l'année passée, elle était en première année, mais il y a plein de réflexes que je sais qu'elle a acquis en voyage, cette confiance-là aussi qui est très importante, puis avant tout, connaître, aller vers l'autre, ben, c'est avoir moins peur. Puis quand on a moins peur, ben, on est plus ouvert, puis on est plus confiant, puis on est plus tolérant. Puis plus on est tolérant, puis plus on est confiant, puis moins qu'on a peur, ben, plus ça facilite justement cette communication-là. Puis bon, écoute, je rêve peut-être au Père Noël, là.
Si le voyage, moi, ce que ça m'a amené, c'est une confiance en moi d'une certaine façon. Ouais. Parce que puis ça doit l'amener aussi aux très jeunes enfants parce que tu n'as pas le choix de te débrouiller. Tu n'as pas le choix, tu te retrouves face à l'inconnu, à des choses que tu n'as aucune idée comment ça se passe dans ce pays-là, même si on fait sensiblement les mêmes choses un peu partout dans le monde. C'est très différent en même temps. Donc là, tu te retrouves face à... tu t'en vas en Thaïlande, ben non, ils mangent peut-être même pas aux mêmes heures, mangent pas la même chose que toi, ont pas les mêmes routines. Il y a des gestes que toi, tu fais, que pour eux, c'est insultant et vice-versa. Il y a des choses que tu fais comme, oh, attends, là, il faut que je respecte aussi où est-ce que je suis, comment l'autre fonctionne. Puis ça donne une indépendance quand tu reviens à la maison, mais sans t'en rendre compte, finalement, t'as appris à être plus indépendant, à avoir une meilleure confiance, à une meilleure compréhension du monde aussi, puis de voir qu'il y a d'autres choses qui existent que juste dans ma maison ou juste, tu sais, mes petites affaires.
Vraiment.
J'imagine que l'impact sur les enfants aussi, c'est ça que ça fait, parce que les enfants sont très... bon, j'ai ma maison, j'ai mes parents, j'ai mes petits amis, puis c'est ça qui se passe, puis c'est correct aussi, mais des fois, quand ils partent en voyage, ils reviennent, puis il y a d'autres choses qui existent dans leur monde, dans leur tête, et c'est quand même...
Vraiment!
C'est très enrichissant.
Il y a une phrase que je répète souvent que ma fille me dit, tu sais, puis on était dans une période où est-ce que on bougeait beaucoup, c'était le congé maternité de son frère, fait qu'elle avait 3 ans, tu sais. Même au Québec, on allait souvent dormir chez les grands-parents, au chalet, puis elle m'a dit, ah, tu sais, moi, ma maison, c'est ma famille, hein. Juste de ne pas avoir cette attache puis cet ancrage-là matériel à sa routine, à son, tu sais, à son lit, puis on impliquait les enfants quand même dans des rituels, tu sais, de dodo. T'sais, donc, pas nécessairement des routines formelles, mais des rituels. Par exemple, lire un livre avant d'aller se coucher, se brosser les dents, lire son petit livre justement avec sa doudou qu'on emmenait un peu partout. Fait qu'on avait ces petits rituels-là qu'on reproduisait en voyage, mais on n'était pas dans une rigidité. Tu sais, en Asie, là, on mange de la soupe pour déjeuner, là, puis des pâtes, puis de la viande, puis des choses comme ça. Pourquoi qu'on doit se limiter à des céréales puis des croissants, des œufs à Montréal? Mm-hmm. À quelque part, c'est ça. Donc, moi, si mes enfants ont envie de manger un spaghetti le matin, là, ben, ils mangent un spaghetti le matin. Puis c'est bien correct.
Ouais.
Ça va se passer, tu sais. Fait que c'est tout ça que je remettais en question puis qui m'enlevait aussi beaucoup de pression au niveau de moi en tant que maman, tu sais. Mm-hmm. Parce que tu sors d'hôpital, on te donne ton livre, là, Mieux vivre, c'est ça? Et on donne ça, puis là, on dit, ben, écoute, si tu rentres pas là-dedans, tu vas tomber dans une catégorie de mauvaise mère. Puis, si dans le mieux vivre, on dit que, tu sais, faire l'introduction des aliments, c'est à 6 mois, mais qu'en France, il y a des livres de bouffe pour bébés à partir de 4 mois, tu sais, ben, humainement, pourquoi que, tu sais, petite latitude ici? Fait que c'est tout ça qui fait comme un peu réfléchir, puis se dire, ben, de nous donner notre confiance, de se réapproprier finalement notre instinct puis notre confiance.
Ah, c'est ça que j'étais pour dire. Je pense que c'est aussi d'écouter notre instinct maternel. Ouais. Parce que moi, à chaque fois que je ne l'ai pas écouté, ça a toujours viré en bordel. Puis à chaque fois, je me dis, mais pourquoi je me suis pas écoutée? Et des fois, ben parce que, bon, les autres, les ci, les ça, on t'entend plein d'affaires, tu sais, comme, non, OK, ben j'ai pas raison. Puis finalement, oui. Moi, partir en voyage avec mon enfant, je dois l'avouer, ça va être une zone d'inconfort. Il y en a un qui s'en vient, un voyage, puis je suis comme, mais en même temps, j'ai vraiment hâte, puis j'ai hâte de partager ça avec lui. C'est quoi tes 3 choses qu'un parent doit absolument connaître, savoir avant de partir en voyage pour toi? Ça serait quoi?
Ben, c'est peut-être pas connaître, mais c'est plutôt faire, tu sais. Vraiment, parce que connaître, il y a plein de choses, tu sais. Il y a 368 pages de contenu que tu dis, ben, écoute, ce serait bon que tu connaisses ça, sais. Mais je dirais trois choses, tu sais. Puis peut-être la première chose, ça serait juste de dire, de prendre conscience de ses limites, puis penser qu'on peut voyager différemment, mais aussi comme avant. Tu sais, là-dessus, ce que je veux dire, c'est pas essayer de tout voir ou tenter de tout faire comme on faisait avant. Puis il y a plein d'autres choses et plein de belles découvertes qui vont s'en découler. De choisir sa destination aussi qui correspond à comment qu'on sent maintenant. Donc, si j'ai un accouchement difficile, c'est pas vrai que ça va me tenter deux mois plus tard d'aller monter l'Everest. Bon, je niaise un peu là en allant dans ce cas extrême, mais peut-être qu'un chalet à Magog, ça va être extraordinaire. La deuxième chose, c'est vraiment t'informer parce que c'est un gros stresseur. Tu l'as dit en entrée de jeu, même si on voyage beaucoup, voyager avec les enfants, même si c'est célibataire ou en couple, je pense qu'on s'est jamais posé la question comment qu'on change une couche à 10 000 pieds d'altitude, tu sais. Mais le jour où on a un enfant dans les mains, ben il y en a plein, tu sais, des contraintes de liquide, quelle est la meilleure poussette pour voyager. Il y a du contenu à l'investir. Ce qui est encore plus stressant, c'est tout le côté, tu sais, des démocratisations des processus aéroportuaires parce que ça, c'est un gros facteur de stress. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé une conférence qui s'appelle « Préparer son voyage avec bébé et enfant ». Puis pendant 2 heures, ben j'accompagne un groupe de parents qui est là, quand même assez restreint. J'essaie de le faire dans un groupe de moins de 20 personnes, donc c'est toujours assez intime. Puis sous forme de questions-réponses, de manière quand même assez personnalisée, ben interactive, je trouve, je dirais. Ben j'amène les gens à préparer leur voyage. On les amène dans l'avion avec nous. On passe vraiment à travers tout le processus, dans l'avion, tout ce qu'il faut savoir, jusqu'à temps qu'on arrive à destination. Donc, troisième chose, c'est vraiment s'équiper. S'équiper, c'est niaiseux, mais il y a tellement d'objets qui font. Puis on parle pas de surconsommation ici, là, nécessairement, là, mais plein de choses qui nous simplifient la vie. Ça vaut la peine d'investir, puis c'est pas nécessairement à plein prix. Il y a vraiment, j'ai créé aussi le Bazar pratique Baby Jetlag, qui est un groupe Facebook d'échange, de prêts, de dons, de ventes d'objets qui facilitent la vie de parents voyageurs. Donc moi, j'encourage beaucoup, beaucoup de ronds et de circulation de stock, comme on dit, t'sais, pour faciliter les repas en déplacement, pour faciliter les déplacements, le dodo en voyage, puis toutes ces catégories-là, finalement, ces grandes catégories.
C'est un élément que tu as en tête qui t'a sauvé la vie, que tu fais comme, hey, une chance que j'avais ça en voyage, sinon, je sais pas si c'est arrivé.
Ma patience, mais non. Ma résilience et ma patience.
Oui, respirer par le nez.
Ben, oui, vraiment. Tu sais, ma résilience, ma patience, vraiment beaucoup. Quand les enfants étaient quand même plus jeunes, le porte-bébé, pour moi, a été quand même un bon essentiel là, de voyage. Il y a des gens qui ne portent pas, il y a des gens qui portent. Tout dépendant, c'est sûr que la personne qui ne porte pas à Montréal, son enfant ne va pas tout à coup aimer ça en voyage, pas vrai. Ouais. Sinon, ben, t'sais, une bonne poussette de voyage aussi, c'est un super bon investissement pour vraiment tout ce qui est manipulation, t'sais, rapidité, compact. T'sais. Il y a plein de bons trucs pour ça. Là.
On regardera ton livre de toute façon et tes nombreux comptes Facebook. On va avoir tous les détails dans tout ce que tu fais. Tu t'investis dans chaque branche. Je trouve ça vraiment fascinant parce que en t'écoutant parler, il y a tellement de choses qu'on ne connaît pas. Puis j'ai l'impression que tu as probablement, en faisant autant de voyages, tu te dis, telle affaire n'existe pas, je vais le créer, tu vas voir.
Ben, c'est juste
maintenant, ça. On
va savoir. Mais vraiment, puis en fait, c'est drôle que tu dis ça aussi parce que comment j'ai bâti finalement Baby Jetlag, quand je racontais qu'en 2012, j'ai eu ma fille, puis en 2013, je suis retournée au travail, ben, il y a quand même eu en 2013 puis 2016, un 3 ans. Hein, puis là-dessus, ben, j'ai infiltré tous les groupes de parents voyageurs de la Terre. Bon, j'exagère quand même beaucoup en disant ça, là, mais en fait, quand même quelques-uns. Et à chaque fois qu'il y avait une question qui était posée, puis c'est vrai que, bon, je passe beaucoup de temps sur Facebook, faut croire, là, mais chaque fois qu'il y a une question qui était posée puis que j'avais pas la réponse, je notais cette question-là, puis je notais tout le temps toutes les questions que j'avais pas la réponse, puis j'allais au fond des choses. Mm-hmm. Donc, j'allais, puis je contactais toutes les compagnies aériennes canadiennes, j'ai tout un contact direct aux communications corporatives où je valide à la source toutes les questions. Tu sais, je vais vraiment, même chose pour l'aéroport de Montréal, je vais creuser comme c'est pas possible chaque sujet. T'sais, j'ai un dossier sur le siège d'auto où j'ai les institutions gouvernementales américaines qui m'envoient des mots en disant, mais il y a jamais personne qui nous a posé cette question-là. Donc, c'était même pas. T'sais. Fait que j'ai vraiment cette rigueur-là. Là.
Justement, le fameux banc d'auto, là. Quand on arrive avec un bébé ailleurs dans le monde, tu prends le taxi, là. Moi, là, c'est la chose la plus épeurante. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais? Je le garde sur sur moi. Puis là, il y en a qui arrivent avec des sièges d'auto, puis tu regardes le siège d'auto, puis tu dis comme, mais je ne mettrai jamais mon enfant là-dedans.
Ouais.
C'est quand même juste ça. C'est toute une aventure.
Puis il y a des solutions, parce que dans le fond, ailleurs, sauf dans quelques États américains, puis des endroits spécifiques à travers le monde, en effet, on peut prendre le taxi sans avoir un siège d'auto. Mais après ça, on se pose la question, c'est un peu faire du vélo sans casque ou du ski sans casque. C'est pas parce que c'est autorisé que c'est nécessairement ou que c'est pas illégal que c'est nécessairement la chose la plus sécuritaire. Mais oui, il y a des solutions qui s'offrent à nous, tu sais, d'avoir notre propre siège auto. Il y a des compagnies aussi de taxi maintenant qui offrent le service aussi de siège auto sous forme de, on les réserve des fois d'avance et sous forme de navette. C'est sûr, c'est plus cher qu'un taxi normal, on va se le dire. Sinon, il y a même une maman de Londres, si je me trompe pas, qui a inventé le Belt Up Baby, qui est une espèce d'harnais à 5 points pour sécuriser justement les trajets en taxi. Donc moi, je suis vraiment les yeux et les oreilles de tout ce qui se passe en innovation, en voyage et en famille. Puis grâce, souvent je communique ça sur le site, bien sûr, mais sur la page Facebook de Baby Jet Lag.
C'est quoi le pays le plus accueillant pour une famille, selon toi, que tu as fait?
Oh mon Dieu, il y en a plusieurs. C'est sûr qu'au niveau, j'en nommerais disons trois que je trouve vraiment intéressant. Que le Portugal est une destination extrêmement populaire là auprès des familles québécoises. Moi, quand j'étais petite, je disais que mes parents étaient portugais, puis personne ne savait c'était où sa carte. Puis là maintenant, c'est j'étais là l'année passée, puis c'était super. C'est un peuple qui a un respect très grand de la famille, des personnes âgées aussi, donc l'accessibilité en poussette, forcément en chaise roulante et tout ça, tout est pensé pour faciliter la vie, le rapport qualité-prix aussi extraordinaire. Bali, j'ai adoré Bali avec les enfants, on y retournait 2 fois avec les enfants, tu sais, puis on a vraiment beaucoup aimé ça. Encore là, c'est parce que c'est un peuple où la famille est au cœur des valeurs. Puis c'est super drôle parce que dans la tradition balinaise, un enfant ne sort pas de son campang, là, dans le fond, de son espèce de regroupement de maison familiale avant l'âge de 6 mois. Puis nous, nos enfants avaient 5 mois. Fait qu'on se promenait, puis c'était comme, oh my God, c'est bien drôle, un bébé dans la rue. Puis, c'était vraiment comique, c'est vraiment, vraiment super drôle. Et encore là, tu sais, tout à l'heure, tu parlais des façons de faire qui sont différentes. Bien, en Asie, pas toucher à un enfant, prendre un enfant d'un inconnu, c'est une marque de respect. Donc, pour nous, on se faisait prendre souvent nos enfants, tu sais. Puis là, ils s'en allaient en cuisine pendant qu'on mangeait. Donc là, ça, en tant que mère, ça prend à lâcher prise. Puis on gérait au son. Fait qu'on écoutait le son, voir comment ça allait. Mais au début, je m'en tirais là, de dire que ça m'a pas comme ouh, OK, comment je gère ça? Bon, on a décidé de laisser aller. Puis on en est sorti vraiment grandi. Puis les enfants aussi. Puis non, c'était vraiment super chouette. Un autre endroit où j'ai fait comme c'est donc bien intéressant ici, puis je m'en attendais pas, bien, la Slovénie. La Slovénie, qui est un pays extraordinaire aussi à visiter, vraiment. Donc, ça aussi, ça a été un gros coup de cœur en famille.
Mais moi, dernièrement, je ne sais pas pourquoi, mais je le vois passer partout, le Costa Rica.
On était là l'hiver passé.
Oui.
Le Costa Rica, selon mon thermomètre de la communauté Baby Jet Lag, là, c'est vraiment les deux destinations les plus populaires là, pour les familles au Québec. Là. Costa Rica, ceux qui sortent bien sûr, j'enlève le Cuba, République Mexique, là, j'enlève ça. Là, non, vraiment Costa Rica pour les destinations plus soleil. Puis en effet, on a passé 2 semaines Noël passé là-bas. Puis avant ça, j'avais passé avec Jean-François, mon conjoint, 1 mois au Costa Rica. Donc, on connaît bien la place, puis c'est vrai que c'est extraordinaire.
Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux développer en ce moment où tu es prise dans tes nombreuses pages Facebook, site web, livres, et aussi la ruche qu'on n'a pas parlé, que je trouve ça vraiment fascinant.
On va faire un autre podcast sur la ruche.
On s'en reparle.
J'ai comme 2 chapeaux et 2 vies. Des fois, je prends un chapeau, là, je prends mon chapeau, je suis spécialiste voyage en famille, puis l'autre en développement économique. On switchera de chapeau. Mais pour répondre à ta question, en fait, ce que j'aimerais beaucoup puis ce que je me souhaite pour 2020, c'est vraiment de consolider justement tout ce que j'ai fait. Puis j'ai beaucoup travaillé très, très fort au cours des 3 dernières années pour positionner le tout, pour créer du contenu. Il y a plus de 250 articles sur le site. Mais c'est les conférences, en fait. J'adore donner ces conférences et ces ateliers-là. C'est un grand plaisir pour moi. Donc, je le vois comme activité socio-récréative aussi. Ça, là-dessus, j'aimerais beaucoup, beaucoup. Puis bon, ben, qui sait, peut-être un autre livre éventuellement, mais probablement pas en 2020. Puis vous pouvez voyager aussi avec moi sur Instagram. Donc, sur Baby Jetlag aussi sur Instagram, on s'en va au Pérou. On quitte passer Noël au Pérou. Alors, vous allez être en mesure de pouvoir voyager avec nous.
Qu'est-ce que ça veut dire pour toi en terminant femme de fer?
Eh ben, je pense que c'est quelqu'un qui prend des risques. Puis qui est capable de se tenir solide, qui croit en ses convictions, qui va au bout de ses passions, qui va au bout de ses rêves. Tout à l'heure, j'ai parlé de rêves, tu sais, de quand j'ai dit que j'ai changé de carrière, ou en fait, j'ai souvent, je dis en riant que j'ai scrappé ma carrière.
Mais on la scrappe toute notre carrière. Moi aussi, j'allais scraper si on peut.
Ben, si on l'a pas. Ben, exact. Puis moi, j'aimerais ça faire un ode aux scrappeurs et aux scrappeuses de carrière. Parce que je trouve que ça fait vraiment, il en faut des gens qui prennent des risques puis qui décident de faire les choses différemment, tu sais, puis qui prennent un certain recul face à ça. Puis ça veut pas dire qu'un jour, peut-être un jour, je retournerai dans le milieu corporatif. J'ai pas de nom à ça parce que, sincèrement, j'ai eu beaucoup de plaisir là où j'étais, tu sais, puis dans les deux grandes entreprises que j'ai fait au cours des dernières années. Puis j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir, autant que j'en ai eu en agence de pub avant, là, quand c'était le gros fun au début des années 2000 dans les agences de pub, là. Mais ça, c'est une autre histoire.
Oui.
Mais,
c'est ça. Mais, j'ai entendu des mythes sur ça, ces moments mémorables.
C'est ça. C'était les bonnes années, comme on dit. Oui. Tu sais, autant que j'ai aimé ça, autant que je me dis, ben, j'aime ça me réinventer. Puis peut-être qu'une femme de fer, c'est quelqu'un qui se réinvente aussi.
Est-ce que tu vis ton rêve en ce moment?
Je tente de pouvoir le poursuivre, donc le vivre et le poursuivre. Puis oui, ça me satisfait vraiment pleinement. Puis chaque matin que je me lève, là, j'ai l'impression d'avoir du sens dans ma vie. T'sais.
La meilleure façon de te contacter, Sophie, c'est comment, c'est où? C'est sur tes plusieurs plateformes, j'imagine.
Ben oui, plusieurs plateformes, mais le site web babyjetlag.com a mes coordonnées par courriel, mais je vous invite vraiment plus à passer soit via Instagram ou sur Facebook. Donc, la page Facebook babyjetlag, la référence des parents voyageurs. Allez faire une petite mention j'aime. Puis, suivez-moi sur Instagram, vraiment. Je vous partage mes belles trouvailles au quotidien. Puis, vraiment, ce qui m'inspire, toujours lié avec la mission du site, la mission de Babyjetlag, qui est de faciliter la vie des parents voyageurs.
Génial. Ben, j'espère qu'avec ce podcast-là, tous ceux qui nous écoutent présentement n'auront plus peur de voyager avec les enfants. Et aussi à ceux qui connaissent des gens qui ont des enfants, qui veulent voyager avec leurs enfants, de partager ce podcast-là pour les amener justement à se dire, ben, coudonc, je vais peut-être partir en voyage avec mes enfants. Ne serait-ce qu'une petite heure de route en voiture juste pour se dépayser. Ça fait toujours du bien. Et ben, j'espère qu'on leur donne le goût en cette fin d'année de voyager pour l'année 2020.
Vraiment, bien, faites voyager ce podcast-là pour faire un bon jeu de mots, puis je vous souhaite une belle année de voyage en famille.
Merci d'avoir été à l'écoute. J'espère que vous êtes incroyablement inspirés pour vos projets. Si ça vous intéresse de garder contact, rendez-vous sur Instagram sur le compte de Femmes de fer ou abonnez-vous à l'infolettre. Et si vous aimez l'épisode, vous pouvez laisser un commentaire. C'est ce qui me motive à trouver les meilleures femmes de fer pour vous. Et je vous dis à la prochaine!